Bonjour et bienvenue à Escale 17-18 avec Fulgence Blas au micro et Nicolas Fadman à la technique. C'est la dernière de la semaine. Escale 17-18, cette émission que vous retrouvez aussi sur toutes les plateformes numériques. Voilà, pas seulement la mienne, toutes les émissions de Canal M, mais Escale 17-18 aussi, voilà, se retrouve sur Spotify. Au fait, je n'ai même pas encore mis mon bonnet de micro, mais ça quand même, on m'entend, je crois bien, c'est pas un problème, je vais mettre ça après. Alors, c'est toutes les plateformes numériques pour écouter toutes les émissions de Canal M là-bas. En première partie d'émission, je me suis choisi quelques sujets dont je vais vous parler. Et en deuxième partie d'émission, j'ai un invité de marque Réal Barnabé, qui est journaliste et consultant pour l'Union Européenne en Tunisie. C'est pour parler des divers programmes de coopération internationale dans le développement des médias. C'est la raison de mon invitation. Il sera avec nous, il devait être avec nous en studio, mais malheureusement, le maudit virus est en train de le fatiguer, donc je vais l'avoir au bout du fil. Réal Barnabé. Alors, restez à l'écoute. On commence tout de suite avec Hera Ménard qui nous parle de marché sur mes terres. Aujourd'hui, c'est le jour de la terre, bien évidemment. Voilà, j'en ai parlé hier. Je vais revenir encore sur ça aujourd'hui pour vous donner quelques infos concernant les lieux. Voilà, comment vous aider peut-être pour ceux qui n'ont pas encore fait le petit geste. De faire le petit geste tous les jours. Mais c'est une journée spéciale quand même, il faut le dire. Jour de la Terre, 22 avril 2022. C'est comme ça tous les ans, c'est depuis 70 quand même. Voilà. Allez, on va en musique.
Sur mes terres. sur mes terres.
Oui, c'était Ira Mineur, Marcher sur mes terres. Je fais passer cette pièce parce qu'on y est, j'en avais parlé derrière. C'est la campagne 2022 du jour de la Terre. C'est aujourd'hui, c'est déclaré malade pour guérir ensemble de l'éco-anxiété. Voilà, guérissons ensemble. D'ailleurs, guérissons ensemble, c'est le thème de cette année d'ailleurs, de sa campagne 2022 pour chacun de nous. Voilà, comme disait, que je vous le disais hier, pour moi, pour, pas pour moi, mais la Isabelle Béliveau, la cofondatrice et directrice générale de l'Écomotion, organisme spécialisé en éco-anxiété, elle dit pour elle, la crise climatique et la crise de santé mentale qu'on traverse présentement sont interreliées. L'éco-anxiété est notre système d'alarme interne qui nous confirme qu'on est personnellement concerné par les changements climatiques. C'est normal d'en vivre et c'est surtout souhaitable, hein, car elle pousse à chercher des solutions d'adaptation pour mitiger les impacts du changement climatique sur nos communautés. D'ailleurs, c'est vrai qu'elle peut devenir envahissante, mais il est possible aussi d'apprendre à vivre avec et même à la transformer en une source d'énergie qui permet à se mettre en action et de mobiliser les autres autour de soi. Voilà, c'est Isabelle Béliveau, cofondatrice et directrice générale d'Écomotion, organisatrice, organisme spécialisé en éco-anxiété. Voilà. guérissonsensemble.org, c'est le même que jourdelaterre.org, org c'est O-R-G, c'est très important, voilà, et chacun de nous s'investit à sa manière, voilà, c'est qu'est-ce qu'on peut dire, et face à l'incertitude causée par les chocs combinés de la crise climatique, Covid, que j'appelle le mauvais virus, le maudit virus, et de la guerre en Ukraine derrière, les gens se sentent impuissants. Tout le monde se sent impuissant. Voilà, il faut agir. Hein. La planète a besoin de nous, on a besoin de la planète, de nous, en forme, bien sûr. Donc cette année, l'organisme nous invite à se doter des outils dont ils ont besoin pour aller mieux. Nous leur offrons, c'est guérissonsensemble.org pour découvrir les activités qui se tiennent dans votre quartier, dans votre environnement, dans votre ruelle. S'il y a des gens, des militants qui habitent là, qui sont très engagés pour aujourd'hui, ils peuvent s'engager. Tout le monde, on doit être engagé tous les jours. C'est pas parce que la journée du 22 avril, c'est la journée de la Terre, que c'est seulement cette journée qu'il faut faire un petit geste. Ah non, je dirais non. C'est pas comme ça que ça marche. On peut tout faire, tout le temps, tous les jours. Voilà. Et il y a Nature Québec aussi qui dit, jour de la Terre, poser un geste qui a beaucoup d'impact. Ça, c'est très, 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 très urgent pour chacun de nous afin de réduire notre impact sur l'environnement et de protéger notre planète. Le dernier rapport publié par le groupe 3 du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC. Voilà, tout le monde était paniqué là quand on a entendu parler de ce rapport, sans cesser, ce rapport sans équivoque. Nous avons 3 ans pour changer radicalement. 3 ans. Voilà. C'est vous et moi, c'est les politiques, les décideurs, l'organisation de nos modes de vie afin de réussir à atténuer la crise climatique. Hein. La bonne nouvelle, c'est que des organismes comme Nature Québec travaillent déjà à faire avancer des solutions qui sont parfaitement en ligne avec les recommandations du rapport du GIEC. Alors, telles que la protection, la restauration et la meilleure gestion des écosystèmes, ça c'est très important, naturel, ou encore la promotion des énergies renouvelables locales. Et en tant que citoyen, citoyenne, chacun de nous a une façon des plus simples de poser un geste concret avec beaucoup d'impact en ce jour de la Terre. Et demain aussi, après-demain aussi, après-demain aussi, et après-demain aussi. Voilà. Ouais, vous soutenez financièrement. Vous pouvez aller sur le site hein, Nature Québec en un seul mot, .org. Vous pouvez faire un petit geste là-bas. Voilà. Et ça permet à ces gens-là de faire des activités, de faire des rencontres, de faire des voyages. Vous pouvez voir là-bas aussi la liste des événements organisés à travers la province. Et puis, bon, ben, voilà, sur la campagne du jour de la Terre 2022. Guérissons ensemble. Voilà, guérissons ensemble. C'est le thème de cette année. Alors, je tenais à parler de ça à tout prix parce que je me suis dit non, je ne laisse pas passer l'opportunité. Afin que, oui, j'ai encore 2 minutes, ça me permettra de continuer et aller de l'avant. La mission de l'organisme Le Jour de la Terre, ils sont pas loin d'ici, hein, ouais. C'est 58-18 boulevard Saint-Laurent, Le Jour de la Terre. En plus, alors, si vous avez des projets, vous pouvez les appeler aussi au 514-728-0116. Sinon, vous pouvez les trouver. Vous les trouvez le jour de la Terre. C'est un organisme. Hein. Il y a un bureau. Il y a des gens qui travaillent là-bas au 5818-5818 boulevard Saint-Laurent. C'est à Montréal, bien évidemment, bien sûr. Ou bien envoyez simplement un courriel à info@jourdelaterre.org. Org, comme dit d'autres. Voilà. Comme dirait l'autre. Alors, qu'est-ce que je voulais dire encore rapidement? Il y a des gens qui ont donné des consignes à suivre, qu'il faut agir collectivement, il faut s'affranchir de la dépendance à l'auto. Voilà, les gens qui sont en région, qui en ont besoin vraiment tous les jours pour se déplacer, ils vont sauter au plafond. Considérer la biodiversité dans son ensemble, réfléchir à long terme et tourner le dos aux énergies fossiles, bien sûr, et devenir des chefs de file, c'est-à-dire la transition énergétique ne pourra jamais se faire qu'avec du leadership et des investissements. Ça, chacun de nous le sait. Voilà, c'est faut le faire et tourner le dos aux énergies fossiles, ça, c'est la décision de qui ? C'est pas nous, là, monsieur, madame, tout le monde, dans tous les coins, à moins qu'on se sépare de tous nos véhicules, plus de carburant, plus de stations d'essence. Mais ces décisions-là doivent être prises par les politiques. Voilà. Les preneurs de décisions, les chefs d'État, les premiers ministres, les chefs départementaux, les premiers ministres provinciaux. Quand je peux, là, ça parle du Canada. On va aller en musique avant de passer au prochain sujet. Voilà. Didier Drogba vient d'être intronisé au temple de la renommée de la Premier League en Angleterre. Ça s'est passé hier. Waouh. On va en musique et puis je vais en parler.
Baby, you got me up all night in bed, thinking about all of the nights you've been with me, and how I wish that I could breathe.
C'était Justin Bieber, Every Minute. Voilà, comme je disais après la petite pause, avant la pause musicale, Didier Drogba, le grand joueur de football, de soccer, qui est passé par Montréal aussi, l'ancien de Chelsea, de l'OM, vient d'être intronisé au temple de la renommée de la Premier League en Angleterre, bien sûr. C'est ce qu'on appelle là-bas Hall of Fame de la Premier League. Alors, ça existe depuis 2021, c'est nouveau ça. Alors, c'est un véritable, qu'est-ce qu'il dit ? C'est un véritable honneur pour moi d'avoir été intronisé au Hall of Fame de la Premier League. Mes années avec Chelsea ont été si spéciales pour moi et je suis incroyablement fier de tout ce que nous avons gagné en équipe. J'ai joué avec des joueurs fantastiques, pour des managers incroyables et contre des adversaires brillants. Je suis tellement heureux de dire que j'ai remporté la Premier League 4 fois et maintenant je suis dans le temple de la renommée. Voilà, avec certains de ces grands joueurs avec lesquels je jouais et contre qui je suis fier. Alors, c'est lui qui le déclare comme ça. Il est le premier Africain, d'ailleurs, ouais, à rentrer là-bas. Bon, c'est tout nouveau de toutes les façons. Mais ce qu'il a fait à Chelsea a laissé vraiment des traces. Hein. À l'image des grandes ligues nord-américaines comme la NBA, la NLF ou encore la NHL, la Premier League a créé son Hall of Fame, c'est-à-dire temple de renommée, en 2021. Son cercle des légendes. Après Thierry Henry, qui joue à Arsenal, Eric Cantona, Leeds, Manchester United, Alan Shearer, Blackburn, Newcastle, David Beckham, Manchester United, et puis Dennis Bergkamp, Arsenal, Frank Lampard, le grand Frank Lampard, West Ham et Chelsea, Manchester City, Steven Gerrard, Liverpool et Roy Keane, Nottingham Forest et Manchester United l'an dernier. De nouveaux joueurs vont l'intégrer cette année, comme l'a révélé la Première Ligue jeudi, c'est-à-dire hier, et notamment Didier Drogba. Il y aura aussi Patrick Vieira, qui a joué à Arsenal, à Manchester City, Wayne Rooney, Everton, Manchester United, Sergio Aguero, Manchester City, et Ian Wright, Arsenal, West Ham, Vincent Kompany, Manchester City, et Peter Schmeichel, Manchester City, Aston Villa, et Paul Scholes. Oui, et pour intégrer le Hall of Fame, c'est-à-dire le temple de renommée de la Premier League là-bas, temple de renommée, il faut être retraité, avoir arrêté de jouer. Quand on dit retraité, ça ne veut pas dire qu'on a eu 65 ans là. Non, les footballeurs ne vont pas à la retraite à 65 ans, les joueurs de soccer. Avoir disputé 250 matchs de championnat et avoir été meilleur joueur ou meilleur buteur du championnat. Alors, Didier Drogba, il est arrivé là. Il a fait tout ça. Qu'est-ce que vous voulez ? On ne peut pas demander plus que ça, non ? Il a fait ça. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, alors allez-y taper sur Google, là-bas, vous allez tomber là-dessus. La nouvelle est toute fraîche. Elle est sortie dernièrement. Les gens vont se dire, voilà, ah, il le mérite. Beaucoup de gens le disent, il le mérite. J'ai vu les commentaires, là. Je me suis dit, ça, sincèrement, il faut le faire. Hein. Didier Drogba, voilà, il fallait qu'il arrive là, quoi, sincèrement. Voilà. Et qu'est-ce que vous voulez ? Alors, je ne sais pas combien de buts. Je vais revenir là-dessus de toutes les façons la semaine prochaine, ou juste vendredi. Alors, et pour terminer cette première partie de l'émission, je vais parler un peu du Conseil des arts de Montréal. Appel de candidature, comme toujours. Ça, je ne rate pas l'opportunité. Production, diffusion, promotion et consolidation. Éco-responsable. Si votre organisme s'oriente vers une transition éco-responsable et souhaite outiller le secteur culturel sur le sujet ou développer un projet intégrant de telles pratiques environnementales, ces projets peuvent être soutenus financièrement. Ouais. Et ce, dans tous les domaines artistiques grâce au programme de production, diffusion, promotion et consolidation éco-responsable en collaboration avec le Conseil des arts et des lettres du Québec et Culture Montréal. Allez-y sur le site là-bas, amontréal.org/aide/programme, production, diffusion, promotion, consolidation, éco-responsable. Date limite, 29 avril 2022 pour prix entrepreneur culturel Arista, 2 mai 2022, soutien aux artistes sourds et en situation de handicap, individus collectifs et organismes, 12 mai 2022, programme de soutien aux artistes autochtones, 12 mai 2022, programme de soutien aux collectifs et aux organismes autochtones, bien sûr. Et en tout temps, soutien aux frais d'accès, en tout temps aussi, programme de financement additionnel avec la ruche. Donc, voilà, qui s'adresse au programme, ils sont admissibles les organismes artistiques professionnels sans but lucratif, dont voilà, le siège social est à Montréal et qui œuvre dans un ou plusieurs des domaines suivants. Art du cercle, art multidisciplinaire, art numérique, art visuel, cinéma et vidéo. Voilà, conte, danse, littérature, métier d'art, musique, recherche architecturale et théâtre, dont ces organismes font appel à des artistes professionnels, des concepteurs et des conceptrices aussi, bien des intervenants. Quand je dis intervenants ou bien concepteurs, c'est hommes et femmes, voilà, inclus. Hein. Voilà, dans leur discipline artistique, dont leur administration est assurée par un personnel qualifié et expérimenté. Voilà. Doit répondre au, pour être admissible, l'organisme doit répondre aux conditions générales d'admissibilité ainsi qu'aux règles de ce programme. Alors, allez-y sur le site, comme je le dis, Conseil des Arts de Montréal, oui, .org/aide/programme, production, diffusion. Vous allez tomber sur tout ce que je viens de dire, tranquillement. Voilà, et ça c'est pas... Voilà. Je vous dis bonne chance. Pour les artistes qui écoutent, n'allez pas, n'hésitez pas tout le temps, allez-y, faites une petite promenade là-bas sur le site du Conseil des Arts de Montréal ou du Conseil des Arts et Lettres, le Conseil des Arts et Lettres du Québec aussi. Ils ont plein de programmes là-bas qui s'adressent effectivement aux artistes du milieu. Pour ceux qui ont besoin de soutien, si vous n'avez pas besoin de soutien, c'est pas la peine d'aller vous promener là-bas, ça vaut pas la peine. Alors, ok, ça c'est clair. Je finis avec ça. Je reviens sur l'intronisation de Didier Drogba. Didier Drogba avait inscrit 104 buts en 24 matchs de championnat. C'est beaucoup, hein. Voilà, et c'était l'enfant chouchou du stade de la. Parce que à Londres, il y a deux équipes, il y a Arsenal et Chelsea. Et d'ailleurs, actuellement, il y a des candidats qui veulent acheter ce club là, pas des moindres. Il y a pas Lewis Hamilton de Formule 1 et puis Serena Williams de tennis qui se sont mis ensemble pour faire l'offre, peut-être 10 millions ou bien pas chacun, 20 millions de livres sterling, pas d'euros ou bien pas de dollars. Donc ça fait beaucoup d'argent, qui vont essayer de s'associer à d'autres personnes pour pouvoir avoir des parts très grandes dans cette équipe de Chelsea, alors que normalement Louis Armstrong, Lewis Hamilton, pardon, pas Louis Armstrong, il est supporter de Arsenal, l'équipe pas ennemi mais l'équipe concurrente de Londres. Mais parce que c'est son oncle là, mais souvent au stade, son oncle supportait Arsenal, c'est ce qui fait que lui aussi, tout petit, il a commencé à supporter Arsenal. Alors je leur dis bonne chance s'ils peuvent sauver cette équipe, pas oublier. Parce que le Russe qui est là, qui est la tête de cette équipe, les gens ne veulent plus entendre parler de lui, quoi. Alors si Serena Williams, avec ses millions, et Lewis Hamilton, avec ses millions aussi de Formule 1 et de tennis, et autres, là, se mettent ensemble pour avoir des parts, pour pouvoir acheter ce club, pourquoi pas. On le souhaite bon vent. Et puis, on termine en beauté, en musique, avec Morgan Heritage, I'm Coming Home.
So mommy, hold on, everything will be just fine. So I'm coming home, everything should be alright. So baby, hold on, everything will be just fine. Said I know that you miss me, baby. And I know the children too.
thoughts of you that carry me through my day. It's not easy for a man to live this way, but I do, that's why I pray that when I come home, everything should be alright. So mommy, hold on, everything will be just fine. So I'm coming home, everything should be alright. So baby, hold on.
I'm coming home. Voilà, restez à l'écoute. Après la petite pause publicitaire, je vais recevoir Réal Bernabé, qui est consultant et pour l'Union européenne en Tunisie. C'est un journaliste avec tout un parcours. On va parler de ses réalisations, ses divers programmes. Voilà, juste après la petite pause publicitaire, une pièce musicale et puis c'est Réal qui sera avec nous au téléphone. Allez, à tout de suite. Ouais.
Vous écoutez Escale 17-18 avec Fulgence Blas.
On attendait. Ou te mettre bien l'argent, yon l'est quand même moi pour. Te mettre bien machine, yon l'est quand même moi pour. Te mettre bien avion, yon l'est quand même moi pour. Ou mettre chargé million, yon l'est quand même moi pour. 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 Qui ça qui possède l'argent? Malgré toute indifférence, nous sommes celles nouées. Qui tout riche ou qui tout pauvre, sont celles côté de branlée.
Qui ça claque, qui est gros fait, yon rayon pour être confait. Qui ça claque, qui est projet, pour détruire ou pour être forfait. Souffrance, ça te ka fini, ce frère n'y en te ka ini. Tout ça qui yon te ka pini, réussite là, te ka vivre.
Ou te mette qui l'argent, yon l'est quand même moi pour. Te mette qui machine, yon l'est quand même moi pour. Yon l'est quand même moi pour. Ou mettre chargé million, yon l'est quand même moi pour. 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 Yon
yon lè quand même moi pour.
Ça a changé, comportement monde qui danger. Blé tout bagay arrangé, pas moment pour vin venger. Nous tout net qu'à manger, si nous te compte partager. Problème pas ta bravager, vivant pas ta saccager.
Ah oui, c'était Cadillac, Kanem Wap Mori. C'était pour faire revivre un peu la période que Real Barnabé était en Haïti. Même si moi je ne parle pas créole, que je ne sais même pas ce qu'il raconte, ce grand artiste haïtien d'origine haïtienne, et Albert Dabé qui a tout un parcours, c'est un journaliste, actuellement il est consultant pour l'Union Européenne en Tunisie, on va parler des divers programmes de coopération internationale dans le domaine des médias. Voilà, pour ceux qui écoutent la radio, pour ceux qui regardent la télévision depuis des décennies, ils ont entendu cette voix, ils ont vu ce visage de Real Barnabé. Et depuis 1996, il a différents programmes de coopération internationale dans le domaine du développement des médias avant de s'installer en Tunisie en juin 2017. Vous voyez, il avait effectué plus de 130 de missions en Europe de l'Est. Dans les Caraïbes, Haïti, en Afrique aussi, une vingtaine de pays. Voilà, il n'a pas encore posé sa valise. Hein. Voilà, c'est pas fini. Bonjour, Real Barnabé.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Ça va bien. Ben, écoutez, ça va bien, sauf que j'ai été malade cette semaine. J'ai eu la COVID.
Oui.
Alors, c'est la raison pour laquelle on travaille à distance. Sinon, je serais avec vous en studio.
Je sais, c'est Catherine me l'a dit. J'ai dit, oh zut. Comment ça va?
Ça va.
Hein? Oui. Alors, après ces milliers d'années, après ces des décennies comme ça, au micro, à l'écran, maintenant on est dans l'international, de l'autre côté de l'écran ou bien pas, comment on se sent après toutes ces missions-là? Et ça continue, c'est pas fini. Quand est-ce que vous allez déposer la valise?
Je sais pas. J'ai pas de projet pour m'arrêter.
Oui.
Je vois pas pourquoi je m'arrêterais.
Oui.
Il y a des gens qui s'arrêtent pas. Les comédiens, par exemple, les réalisateurs. J'ai des amis qui ont pris leur retraite jeune et qui s'ennuient.
Oui. Oui. Ouais. Je comprends. Quelle est cette envie de communiquer? Est-ce dans notre code génétique ou bien ça vient d'où? Vous êtes un communicateur né.
Oui, mais je me définis d'abord comme journaliste.
Oui.
Il m'a motivé à l'origine. J'étais leader étudiant à l'époque des collèges classiques là, dans les années 60 au Québec.
Oui.
Et puis, j'ai découvert un peu la vie politique. Je me suis inscrit en sciences politiques à Laval.
Oui.
Puis, très rapidement, j'ai constaté que je savais que la science politique pouvait mener au journalisme, mais quand j'étais à l'université, je ne savais pas ce que j'allais choisir. Et en fait, c'est que le journalisme est venu à moi, puisque j'ai été choisi comme stagiaire à la radio de Radio-Canada.
Oui.
Pour un stage d'été.
Oui.
Et puis, finalement, ben, je suis resté à Radio-Canada au moins 13 ans à ce moment-là. J'y suis retourné par la suite, j'ai démissionné.
Oui.
Alors, j'ai travaillé à Radio-Canada 25 ans environ.
Oui.
Avec des moments d'infidélité, parce que je suis allé à Télévision 4 saisons. Lorsqu'on a lancé Télévision 4 saisons dans les années 85-86, j'étais vice-président de l'information.
Oui, 4 saisons à TQS à l'époque.
TQS.
Mm-hmm.
Et puis, on avait décidé à TQS, dès le départ, Guy Fournier et moi, qui étaient vice-présidents au programme, que cette télévision-là serait à l'image de la société montréalaise, qui
oui.
était déjà diversifiée fortement.
Mm-hmm.
On avait décidé que 30% des effectifs allaient provenir de... On parlait pas de diversité à l'époque, mais allaient provenir des communautés culturelles, disons.
Mm-hmm.
Et puis, on a atteint notre objectif. Et c'est comme ça que j'ai embauché Denis Laferrière, qui était inconnu, qui n'avait pas publié son premier roman.
Oui.
On l'a embauché.
C'est grâce à vous, voilà, ça, parce que j'allais venir sur ça, David. C'est grâce à vous qu'on a vu, qu'on a découvert, c'est vous qui avez donné la chance à Denis, disons. C'est grâce à vous qu'on a découvert Denis au Québec.
Ben, C'est-à-dire que Danny aurait sûrement fait son chemin de toute façon. Mmh. Et ce qui est arrivé, c'est que j'étais à la recherche de journalistes des communautés, et puis je trouvais pas de journalistes haïtiens.
Oui.
J'ai rencontré des journalistes haïtiens qui étaient dans les médias communautaires.
Oui.
Et le problème, c'est que ils étaient tellement obsédés par la situation politique en Haïti.
Oui.
À la limite, ils auraient voulu ne parler que de ça. On peut pas se permettre dans une petite équipe d'avoir un journaliste spécialisé à ce point-là.
Oui.
Et j'avais mon voisin qui était aussi mon médecin personnel, André Arsenin, qui est d'origine haïtienne, m'a parlé de Danny. Et Danny était son patient.
OK.
Et je l'ai rencontré et puis je savais même pas, lors de notre première rencontre, il m'a même pas parlé de ses projets de romancier.
Mm-hmm.
Et on a décidé de l'embaucher. Et puis, grâce à ses grands talents de communicateur, il est devenu rapidement une vedette à la télévision. Et il a publié son roman à ce moment-là, ce qui a probablement facilité les choses. Mais c'est vrai que quand je l'ai rencontré, écoutez, il en parle lui-même, il travaillait la nuit au complexe des Jardins, il faisait le ménage la nuit, là, après avoir travaillé en usine pendant plusieurs années.
Oui.
Et moi, je savais qu'il avait travaillé en radio en Haïti.
Oui.
Et j'ai vu ce grand potentiel immédiatement. Et puis, on n'a pas hésité, on l'a embauché, puis on connaît la suite maintenant. Il est à l'Académie.
Oui. Il est passé ici il y a 3 semaines à l'émission, à Escale, ouais. 17-18. Non, mais quand on voit votre parcours réel, sincèrement... C'est la radio, la télévision, TV5, Radio-Canada, Radio-Télévision en même temps. Ça, c'est, ouais. C'est en 94, après avoir été directeur de l'information régionale et directeur des affaires régionales à Radio-Canada, vous avez été détaché auprès du Conseil international des radios-télévisions d'expression française, dont le siège est à Bruxelles.
Exactement.
Voilà.
C'est le CIRTEF qui regroupe les radios francophones du Nord et du Sud.
Oui.
Et... Radio-Canada a toujours appuyé le CIRTEF. Et comme les autres télévisions publiques, d'ailleurs, les autres radios et télévisions publiques. Alors, et j'étais responsable des programmes de formation. Et donc, surtout sur l'Afrique. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire des missions un peu partout en Afrique francophone.
Oui.
Pour organiser des activités de formation qui étaient financées de diverses façons. Parfois par les Belges, parfois par les Français, parfois par les Canadiens.
Oui.
Et puis, j'ai pris goût à ça. Et quand je suis revenu en 96,
oui.
6 mois après, je remettais ma démission et j'ai créé Réseau Liberté, qui était une organisation qui se consacrait donc au développement des médias dans les démocraties émergentes.
Oui.
Et c'est comme ça que j'ai commencé, que je me suis installé dans le monde de la coopération international, dans le secteur vraiment de l'appui aux médias.
Wow.
Alors, on me demande souvent pourquoi les bailleurs de fonds financent de tels projets. Ben, c'est pour encourager la démocratie, parce que, comme on le sait, il n'y a pas de démocratie sans liberté de la presse.
C'est ça, oui. C'est ça.
Yeah. Alors, tous les pays dans lesquels j'ai travaillé...
Mm-hmm.
Commencer à sortir un peu de régime autoritaire,
oui.
Où il n'y avait pas à l'époque pas de liberté et donc était en transition. On l'a vu très bien. Tu sais, par exemple, quand j'ai travaillé au Kosovo puis en Bosnie,
oui.
après la chute du mur de Berlin puis après avec l'arrivée des nouveaux de changements dans la société,
oui.
Là c'était possible de travailler, de voir comment on pouvait développer, contribuer au développement de la liberté de la presse. C'était pareil en Afrique,
oui.
en Haïti. Et bon, tout ça est encore fragile, mais j'affirme que depuis 30 ans, il y a des progrès considérables qu'on a observés dans le domaine de la liberté de la presse.
De la presse, oui, oui. Grâce à vous, il y a d'autres organismes qui collaborent aussi en même temps avec vous. On fait une petite pause musicale pour permettre de souffler un peu et puis on vous revient.
OK.
Merci.
Je voudrais la connaître, savoir comment elle est. Est-elle ou non bien faite? Est-elle jolie? Je voudrais, ou je voudrais la voir. longtemps la regarder, connaître son histoire et son décor et son passé. C'est étrange peut-être, cette curiosité, voir enfin pour admettre et pour ne plus imaginer. Oh, je voudrais comprendre, même si ça me casse, puisqu'elle a su te prendre, puisqu'elle a pris ma place. Je sais déjà son parfum, aussi son écriture, ce mot doux chiffonné, oublié dans notre voiture. Je veux voir aussi l'hôtel, si tu as mis le prix, si la chambre était belle, et si c'était un grand lit. C'est peut-être pas normal, c'est fou comme ça m'attire, cette envie d'avoir mal, oh, jusqu'au bout, jusqu'à mourir. Je voudrais tout savoir, et son âge et sa peau, tout ce qui nous sépare et nous ressemble, c'est idiot. Et te surprendre avec elle, quand t'es drôle, quand t'es doux, t'écouter lui promettre, et quand tu lui parles de nous, je veux te voir encore, t'observer dans la glace, et quand tu l'embrasses, rentrer ton ventre au matador. Je veux vos corps à corps, tous ces gestes oubliés, te retrouver encore tel que je t'avais tant aimé. Dans ce froid, ces cendres, je voudrais rester là, juste voir et comprendre tout ce que je ne suis pas.
Patricia Cass, je voudrais la connaître. Voilà, mon invité est toujours avec moi, Réal Bernabé, journaliste, actuellement consultant pour l'Union européenne en Tunisie. On parle des divers programmes de coopération internationale dans le développement des médias à travers le monde qu'il fait depuis très 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 longtemps, et puis aussi de sa carrière aussi nationale canadienne, montréalaise, où vraiment il était à Radio-Canada du côté de radio et télévision, et puis d'autres stations et chaînes de télévision aussi en dehors de Radio-Canada. Il continue. À l'âge de 24 ans, il a eu des entrevues avec Pierre-Éliott Trudeau. Réal, dites-nous, entre nous, à ce moment-là, vous avez déjà à 24 ans une crédibilité dans la salle des nouvelles. Comment ça s'est passé? Quel est ce défi que le chef d'antenne vous a donné?
Quand j'étais stagiaire à Radio-Canada, j'avais 22 ans.
Oui.
Puis, à la fin du stage, on m'a offert un contrat.
Oui.
Que j'ai accepté, mais j'ai quand même pu terminer mes sciences politiques à temps partiel.
Oui.
À l'Université Laval. Mais je me suis vite retrouvé correspondant parlementaire à Ottawa.
Oui.
Quand Pierre-Éliott Trudeau était premier ministre.
Oui.
Et puis, j'ai eu l'occasion de l'interviewer. J'avais 24-25 ans et puis j'avais l'air de 17 ans.
Oui.
J'avais l'air très, très jeune. Mais on me dit que j'étais crédible quand même.
OK. Tant mieux, tant mieux.
Mais aussi, j'ai vécu les événements d'octobre, parce que pendant la crise d'octobre, j'étais dans l'équipe de Format 60, Format 30,
ouais.
Les grands magazines d'information.
Oui.
Et puis à l'époque, il y avait en télévision, il y avait Radio-Canada et TVA.
Oui.
Et TVA accordait pas trop d'importance à l'information. Ça a beaucoup changé, hein. Ils se sont rattrapés.
Ça a beaucoup évolué, oui, oui. Mmh.
Ça a beaucoup évolué. Oui. Ils sont vraiment professionnels maintenant. De sorte que il y avait personne d'autre dans le paysage. Alors, lorsqu'on était à l'antenne le soir, le lendemain, tout le monde nous parlait du travail qu'on avait fait.
Oui.
Donc, on avait un impact très, très grand.
Mmh.
C'était une période assez fascinante.
Wow! À 24 ans. Oui, vous interviewez le premier ministre du Canada.
Regardez, il y a plusieurs de mes collègues là, qui prennent leur retraite et je vois des jeunes qui apparaissent maintenant au téléjournal. Il y a beaucoup de jeunes. Évidemment, ils sont un peu plus vieux parce que maintenant, les jeunes ont au moins une maîtrise, sinon deux, puis ils arrivent peut-être plus vers la fin de la trentaine, mais ils sont très jeunes.
Oui.
Et plusieurs d'entre eux sont excellents.
Oui, oui.
Et
oui.
D'ailleurs, plusieurs d'entre eux viennent de la diversité.
Oui.
Oui.
Je prends la balle au bon, réel, je prends la balle au bon d'ailleurs. À propos de cette histoire de dans le cadre de vos fonctions d'ailleurs, pour la promotion de la diversité, est-ce que vous vous considérez quand même un précurseur?
Ben, en tout cas, ce que je peux dire, c'est que il y a eu TQS dont je vous ai parlé. Il n'y a pas seulement Danny Laferrière. On a embauché aussi à l'époque Chantal Albert,
oui.
qui n'est pas très connue à l'antenne, mais qui a été. Elle vient de prendre sa retraite. Elle était chef de pupitre du journal de week-end animé par Madame Nadeau à Radio-Canada.
Oui.
Pascal Nadeau. Et par exemple Nadia Jawar qui a travaillé longtemps en TVA, à Cogeco, et qui est maintenant au journal de Montréal,
mm-hmm.
Qui était d'origine marocaine.
Mm-hmm.
Et puis, ensuite, quand je suis retourné à Radio-Canada, pendant un certain temps, j'étais plus ou moins responsable de l'embauche des jeunes journalistes, et j'étais directement associé à l'embauche de gens comme Nathalie Chung,
oui.
qui est toujours à Radio-Canada, mais qui prend sa retraite bientôt, mm-hmm. Maxime Bertrand, qui était journaliste économique, et qui vient d'être nommé dans un poste de cadre à la télévision, et Azeb Bodegorgis, qui est correspondante à Washington.
Oui, donc, Azeb.
J'avais compris très vite, très tôt, que si on voulait que la télévision soit pertinente, il fallait qu'elle soit à l'image de la société. Et si on voulait que l'immigration soit un succès, il fallait faire de la place aux nouveaux arrivés.
Oui.
Alors ça m'a motivé. Et là, on est dans les années 85-90, là.
Oui.
Puis, par la suite, j'ai eu tout le travail que j'ai fait à l'étranger, mais au début des années 2000, j'ai créé avec Fabienne Collat. En fait, Fabienne Collat a créé avec moi et Émile Castonguay la fondation Fabienne Collat.
Oui.
Qui organise des festivals de cinéma, comme le Festival du film Black de Montréal,
oui.
et qui se consacre justement à la question de la diversité.
Mmh.
Et je ne sais pas si vous avez vu ça, les festivals, peut-être que vous en avez entendu parler, mais Fabienne a créé un programme canadien qui permet à de jeunes cinéastes noirs de réaliser leur premier court-métrage.
Oui, 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 oui. Oui.
C'est ça.
Je connais un peu son parcours, Fabienne. Je connais. À l'époque, j'étais à CIBL, on la recevait souvent à l'émission, d'ailleurs, à notre émission.
Alors, moi, je suis toujours vice-président de la Fondation Fabienne Collat.
Oui, oui.
Et puis, je poursuis un petit peu mon action dans le domaine de l'intégration et de la diversité.
Oui.
Par l'intermédiaire de mon action, mon implication à la Fondation.
Oui. Merci en tout cas vraiment, Réal Barnabé. Alors, quel est le conseil que vous avez à donner à ceux qui nous écoutent, par exemple, si je... Je peux pas dire tout ce que vous avez, le parcours et là, le chemin, tout est déjà dit. Quand on parle de quelle est la mission qui vous a, pour terminer dans les 30 dernières secondes, les missions que vous avez effectuées à travers le monde, quelle a été la mission qui vous a le beaucoup plus marqué?
C'est probablement en Bosnie, après quelques mois après les accords de Dayton, quand on a contribué à créer le journal télévisé d'une nouvelle station de télévision là-bas.
Oui.
J'avais une équipe qui était tous des experts venus de Radio-Canada.
Oui.
On a lancé donc ce journal télévisé qui était fait par des Québécois finalement. Mais au-delà de ça, toutes les missions que j'ai faites en Haïti étaient extrêmement passionnantes et troublantes en même temps, parce que Haïti est quand même, c'est près de nous. Haïti, c'est près du Québec.
Oui, c'est beaucoup plus proche de nous ici que les pays africains qui sont de l'autre côté de sont beaucoup plus proches de l'Europe, quoi, voilà. Les pays africains francophones, je veux dire.
Ouais. Et puis moi, j'étais allé en Haïti comme jeune reporter format 60 et j'ai fait un reportage qui s'appelait Pourquoi pas Haïti et qui était et j'ai interviewé Papa Doc quelques mois avant sa mort. Donc moi, j'ai suivi la question, le dossier d'Haïti de très très près depuis très longtemps.
Oui.
Ouais. En fait, je fais une correction parce que c'est pas le reportage que j'ai fait à l'époque ne portait pas ce nom-là, mais après le tremblement de terre il y a 10 ans, là j'ai tourné un documentaire en Haïti pour la télévision de Radio-Canada qui s'appelait Pourquoi pas Haïti, et j'étais retourné sur les pistes de Judith Jasmin qui elle en 59 était allée en Haïti. Son reportage s'appelait Pourquoi Haïti, et moi 30 ans plus tard, j'ai dit pourquoi pas Haïti.
Pourquoi
et
pas dans, Haïti.
Dans ce documentaire, on voit des images de, et je suis retourné là où elle est passée avec le même guide. On a retrouvé le guide qui l'avait accompagné. Aujourd'hui, on parle d'un fixeur, là, les gens qui accompagnent les journalistes qui viennent de l'étranger.
Oui.
J'ai retrouvé ce monsieur-là qui avait 84 ans et qui vivait à Boston, et on l'a ramené en Haïti pour retourner sur les pas de Judith Jasmin.
Merci beaucoup, Réal Barnabé, journaliste qui est chargé maintenant de divers projets, disons, installés depuis, pas installés définitivement en Tunisie, c'est juste le pour la consultation que vous êtes là-bas, non? Vous n'êtes pas là définitivement.
Non, pas définitivement.
Voilà, et pour ceux qui veulent en savoir plus, quand vous voyez la liste de la filmographie de Réal Barnabé, tout ce qu'il a tourné, que ce soit en télévision, radio, mais c'est fou, je me dis, mais voilà. Et c'est pourquoi je vous ai demandé dès le début de notre conversation, quand est-ce que vous allez déposer la valise? Vous me dites non. Réal, au plaisir de vous voir ici en studio, en chair et en os.
Quand on est passionné, on ne peut pas s'arrêter.
Ah là, je comprends. Merci, prenez soin de vous surtout, et au plaisir de vous voir ici un de ces jours pour qu'on puisse continuer notre conversation.
Oui, à la prochaine, merci.
Merci, au revoir.
Doesn't matter who you love, son, if you don't love yourself, son. She could be the only one. And still now I wanna stay if you can't get a hold on what's been doing your soul wrong. Been hanging on for way too long. Like living with a loaded gun. Living with a loaded gun. So let's have a tick, tick, talk about the time that I have left. Always trying to leave you, darling, give up these cigarettes. I can only say farewell when I know that.
Oui, ça c'était William Prince, The Gun. Merci beaucoup à Réal Barnabé, journaliste. qui fait le tour du monde d'ailleurs, et il est en pleine formation, divers programmes de coopération internationale dans le développement et des médias, consultant pour l'Union européenne actuellement en Tunisie depuis 2017. Merci à toi Nicolas, on se retrouve la semaine prochaine. Et on dit merci à tous nos chroniqueurs de la semaine et à notre collaboratrice recherchiste Catherine Bourderon et à nos fidèles auditeurs qui nous suivent depuis le début de cette émission. Allez, sur toutes les plateformes numériques, nous y sommes. Voilà, sur ce, je vous dis ciao. Prenez soin de vous et de vos minutes surtout. Portez-vous bien. Ciao. Your own body hang like three sheets in the wind. Someday they'll blow away, rip right through the pens. And if you pull